L'interview santé par Jessica Falour.
Docteur Pierre Popovski, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes pédiatre homéopathe, l'occasion pour nous aujourd'hui d'en savoir plus sur l'homéopathie. Selon un sondage Ipsos réalisé pour les laboratoires Boiron, 77% des Français font confiance à l'homéopathie, 56% utilisent des médicaments homéopathiques, dont 36% sont des utilisateurs réguliers. Et pourtant, être homéopathe n'est pas particulièrement bien considéré par les professionnels de santé. Pourquoi ?
La raison fondamentale, probablement, c'est parce qu'on n'a pas l'idée du mécanisme d'action. Parce que la science n'est admise en tant que science que lorsqu'on a à proposer un mécanisme fondamental. Donc en pharmacologie, c'est facile, c'est la biochimie, on peut arriver à prouver pourquoi l'aspirine agit dans telle pathologie ou en prévention des embolies ou fluidifie le sang. Alors qu'en homéopathie, on a pas encore d'idées précises sur le mode d'action de l'homéopathie. Et c'est probablement ça qui nous manque. À partir de là, il y a une construction de tout un tas d'a priori vis-à-vis de l'homéopathie, que c'est du placebo, que ça ne marche pas, que c'est de la bobologie, ça soigne la bobologie, que nos patients ne sont pas malades, c'est pour ça qu'ils guérissent, parce que alors que les vrais malades vont voir les vrais docteurs, et bien tout ça est faux, parce qu'il y a des études qui prouvent qu'on a autant de vrais malades que chez les autres docteurs. C'est les études de cohorte de 2012 qui disent ça, que nos malades sont aussi gravement ou aussi peu malades que les malades des autres médecins, que nous n'avons pas de perte de chance, parce qu'on peut accuser les homéopathes en donnant des granules de retarder la mise en œuvre du bon traitement allopathique. Bien non, il n'y a pas ce genre de problème chez nous, et qu'on est aussi efficace que les autres, et que surtout on est beaucoup moins toxique que les autres, puisqu'on ne l'est pas du tout. Donc voilà, si je veux resynthétiser, c'est premièrement un manque de mécanisme fondamental, mais ça va venir, il y a de la recherche qui est en train de se faire, et deuxièmement, des a priori en fait, qui sont facilement balayés par la pratique.
Alors parmi les réfractaires, il y a aussi les patients qui disent l'homéopathie, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marche pas sur moi. Comment l'expliquez-vous ?
Alors il n'y a pas de mauvaise homéopathie, il n'y a que des mauvais homéopathes. Donc si un patient dit ça ne marche pas sur moi, ça veut dire que l'homéopathe a été mauvais et ne lui a pas trouvé son médicament qui va faire que ça marche. Donc probablement parce qu'il a mal analysé le cas, mal interrogé, il n'a pas pris le patient dans son individualité propre. Et donc une mauvaise appréhension initiale fait qu'une prescription va être inadaptée et ne marchera pas. Donc le patient a raison de se plaindre, il faut que l'homéopathe se mette en question et que le patient persiste à se soigner comme ça, même si ça ne marche pas, parce qu'un jour il va trouver soit le même médecin, soit un autre, quelqu'un qui va l'interroger correctement et trouver son vrai médicament qui lui va transformer en profondeur ce patient. Donc en fait, il n'y a pas d'homéopathie qui ne marche pas, il n'y a que des médecins qui n'ont pas trouvé le bon médicament.
Ou des patients qui font leur propre ordonnance d'homéopathie, du fait que c'est pas forcément sur ordonnance justement.
Justement, c'est ça. Vous avez raison, parce que l'homéopathe dans ce cas c'est le patient lui-même, puisqu'il fait de l'automédication.
Exactement.
Et il a encore plus de chances d'être mauvais puisqu'il n'a pas la science qu'a le médecin. Donc voilà.
C'est souvent ça en fait.
Absolument. Hein. Et puis un autre obstacle en pédiatrie, c'est la mauvaise description par les parents de la personnalité psychobiologique de leur enfant. Donc les gens ne savent pas observer et au départ ils sont un peu décontenancés par les questions qu'on leur pose et nous donnent des réponses totalement ininterprétables. Donc ça existe aussi.
Alors quels sont vos conseils pour optimiser l'efficacité de l'homéopathie ?
Eh bien prendre du temps d'abord, savoir écouter ensuite. Donc ça veut dire que le patient lui doit être à l'heure et ne pas être en retard. Doit pas annuler son rendez-vous au dernier moment ou ne doit pas venir sans avoir prévenu le médecin, parce que ça c'est quotidien, c'est 5% de mes patients, ça, en fait, des patients qui ne viennent pas sans prévenir, 5% dans mes statistiques. Donc premièrement, le patient doit se dire j'ai des devoirs vis-à-vis du médecin, je me dois d'être à l'heure et présent. Le médecin en face doit renvoyer à ce patient premièrement de la compétences, on va dire, donc d'être médecin, docteur en médecine, avoir tous les diplômes, et deuxièmement, de la capacité d'écoute. Si on met ces deux choses-là ensemble, eh bien, le patient qui a assumé ses devoirs et le médecin qui a mis en œuvre ses compétences, il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas par optimiser la prescription, ça c'est clair.
Et donc concrètement, au quotidien, lorsqu'un patient a une ordonnance de traitement homéopathique, qu'est-ce qu'il faut faire soi-même, en tant que patient, pour bien prendre son traitement ? Il y a plein de petites choses qu'on me répète depuis que je suis gamine et je ne dois pas être la seule. Prendre son traitement, espacer des repas, ne pas se laver les dents avant, après, est-ce que que tout ça, c'est vrai? Est-ce que ça compte?
Alors, en pédiatrie, c'est ce qui est particulier, c'est qu'on a un mode d'exercice qui est quand même spécial. Ça n'a strictement aucune importance, puisqu'on peut diluer les médicaments, les doses ou les granules dans de l'eau, voire même du lait. Donc on est plus loin d'un repas, puisqu'on est dans le repas.
Ouais.
Donc on n'est pas obligé de le donner à jeun ou loin d'un repas, pour une raison très simple, c'est que comme on agit sur l'énergie vitale d'un bébé, d'un enfant, ça n'est pas la même que celle d'un adulte. Un bébé ne boit pas d'alcool, ne prend pas de pilules, ne fume pas, il n'a pas un vieillissement cérébral, ni de ses cellules somatiques, donc c'est une bombe atomique, un bébé. Donc quelles que soient les conditions chez l'enfant, ça fonctionnera toujours à la seule condition que le médicament soit le bon et la dilution soit la bonne.
Quelles sont les limites de l'homéopathie?
Alors il y en a, contrairement à ce que disent peut-être cette fois-ci les lourds avis de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on a des détracteurs dogmatiques, mais on a aussi des babacools de l'homéopathie qui disent que ça soigne tout, le diabète, le cancer. C'est totalement faux. Les limites de l'homéopathie sont les limites que met le médecin. Parce qu'un médecin doit être médecin, il doit être docteur, parce qu'il doit savoir faire un diagnostic. Donc la limite, c'est l'indication de l'homéopathie. Quand vous avez fait un diagnostic de maladie, eh bien, en fonction de la maladie que vous avez à soigner, vous savez si vous pouvez mettre de l'homéopathie ou pas. Par exemple, dans le cancer, ça ne soigne pas le cancer. La leucémie, ça ne soigne pas la leucémie. Le diabète, ça ne soigne pas le diabète. Mais, dans le cancer, la leucémie, le diabète, il peut y avoir un rôle de l'homéopathie en soins de support. Et on n'est pas obligé de mourir idiot. On peut très bien utiliser l'homéopathie pour traiter les effets secondaires, par exemple des chimiothérapies, des radiothérapies. Donc même dans le cancer, le diabète ou la leucémie, l'homéopathie peut avoir sa place, mais rien que sa place en soins de support, mais non pas en soins primaires. Bon, quand on a besoin de chimiothérapie, on prend la chimiothérapie. Ça, c'est absolument clair.
Voilà. Pour quel genre de maladie ou de bobo l'homéopathie peut-elle faire des miracles?
Alors vive les bobos, vous avez bien raison de me dire ça, parce que ça ne soigne pas que des bobos. Bien sûr que ça soigne des bobos, mais comme n'importe quoi, comme la plupart des placebos qui soignent des bobos. Mais on a bien entendu, et vous l'avez vu, enfin vous le savez, des pathologies lourdes dans nos patientèles, des maladies chroniques, beaucoup de maladies chroniques. Et donc c'est là où nous faisons des miracles, sur des maladies chroniques. Alors par exemple, l'asthme, l'eczéma, les otites séreuses, les troubles du comportement, les troubles du sommeil, etc. Donc on a des effets profonds si on prescrit selon nos compétences et selon les lois de l'homéopathie, c'est-à-dire trouver le bon médicament qui correspond au type de patient qu'on a en face de soi. Et même si la maladie est chronique, ancienne et profonde, avec des complications et des séquelles, on arrive quand même à soigner, des fois même à restaurer totalement la santé, alors que le patient avait déjà un lourd passé pathologique, ce qui fait dire à nos patients que parfois on fait des miracles.
Alors vous faites partie des rares médecins pédiatres homéopathes en France, hein. Vous êtes 15-20, pas
ouais,
plus.
Une trentaine, allez, à la rigueur, mais pas plus.
Donc votre cabinet doit être hyper rempli.
Il l'est.
Les gens viennent de loin, j'imagine.
Les gens viennent de loin.
Alors quels sont?
J'avais fait un jour une moyenne. Je ne travaille qu'avec 15% de gens qui habitent dans la ville où j'exerce. Le reste, ça vient de loin. La moyenne de la distance parcourue pour venir, c'est 46 km. Ce qui fait, comme c'est une moyenne entre la ville où j'exerce, 1 km, et les villes les plus lointaines, comme Düsseldorf, 446 km, etc.
En effet.
Donc on a des patients en fait, du monde entier. Et ceux qui sont très loin, alors on les soigne par Internet, par mail.
Ah oui.
Ils nous envoient des photos quand c'est de la dermato. J'ai soigné des chats, par exemple, des animaux.
Ah bon, ouais. Vous faites ça aussi?
Bien sûr, ça marche très très bien. J'ai sauvé les yeux d'une mimine, d'une petite chatte. La maîtresse m'en ségrait depuis toujours. Avec un médicament qui s'appelait Mercurius Corrosivus, c'était étonnant. Bon, voilà, c'est...
Les mêmes qui sont destinés aux humains?
Les mêmes, on peut soigner l'animal ou l'humain, on est tous faits d'énergie, de matière et d'énergie, et d'esprit. Et donc, on soigne aussi bien l'animal que l'homme. Il n'y a pas de... C'est ce qui fait que l'effet placebo tel qu'on nous le reproche, nous, on n'y croit pas.
Mmh. Alors, quelles sont justement les principales causes de consultation pour vous?
Alors, principalement la prévention, le désir de prévention. Mon enfant est tout le temps malade, il n'est jamais guéri, donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Les vaccinations, les visites systématiques du pédiatre et les maladies chroniques, parmi lesquelles les 11 principales, c'est-à-dire l'asthme, l'eczéma, les otites séreuses, les troubles du comportement, les problèmes neurologiques, tout ce dont je vous ai parlé, l'énurésie par exemple, pipi au lit, tout ça. Voilà, donc c'est beaucoup de chroniques chez un pédiatre, puisqu'on est peu, on fait de moins en moins d'aigus, et on fait de plus en plus de chroniques parce que notre thérapeutique est efficace et s'y prête bien et les patients ne s'y trompent pas. Et l'aigu, bah, finalement, on le laisse. Moi, l'aigu, je le soigne par mail. Les gens m'envoient des mails. Si je vois que ça dépasse l'automédication, j'envoie à l'hôpital ou chez le médecin traitant. Si c'est moi qui peux le voir, si j'ai le temps, je le vois. Mais sinon, je dirige, en fait. Je fais de la télémédecine. C'est très à la mode,
oui.
C'est ça.
Voilà. Alors, nombreux sont les jeunes parents qui s'inquiètent des troubles du comportement chez leur enfant, notamment lorsqu'il y a une forte agitation ou de l'hyperactivité. Est-ce que l'homéopathie peut apporter quelque chose?
Oui, à condition de tenir compte du contexte global. Déjà, donc, de faire un diagnostic, parce que qui dit enfant agité ne dit pas forcément enfant hyperactif. Il n'y en a que 10% des agités qui sont hyperactifs. Ils ne sont pas tous candidats à la Ritaline, enfin aux psychostimulants. Donc il faut faire le diagnostic et ensuite contextualiser le diagnostic. Par exemple, un enfant agité peut très bien avoir des troubles cognitifs, ce qu'on appelle des troubles 10, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Donc ça, il faut savoir le soupçonner, le diagnostiquer, l'envoyer au bon endroit pour faire le bon bilan, la bonne rééducation. Voilà. Donc l'homéopathie, dans un contexte global, aide beaucoup les enfants à aller mieux, mais à condition, bien entendu, de ne pas passer à côté d'un trouble qui serait larvé, qui n'aurait pas fait sa preuve encore. Et là, vous pouvez toujours donner de l'homéopathie, ça ne fera strictement rien. Voilà. Donc il faut toujours contextualiser une action sur des maladies chroniques, en particulier quand c'est des troubles du comportement chez l'enfant.
Merci beaucoup docteur Pierre Popovski pour cet entretien très intéressant. Je rappelle que vous êtes pédiatre homéopathe et vous publiez ces jours-ci un très beau livre, Soigner son enfant avec l'homéopathie, aux éditions du Rocher. Bonne continuation à vous.
Merci beaucoup, vous de même, bon courage.
À bientôt.
À bientôt.
La santé sur tout.com.